Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Bank avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Le 26 juin est placé sous le signe de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Derrière la notion de lutte contre ces substances, on retrouve des approches comme des actions extrêmement diverses. Si les Nations Unies insistent sur la sensibilisation, la prévention des risques pour les usagers afin de mettre fin à la stigmatisation et la discrimination, certains États, à l'inverse, prônent et appliquent des politiques répressives, assimilant les consommateurs en situation de dépendance, non pas à des malades, mais à des délinquants, voire des criminels. Politique de lutte contre la drogue d'un côté et dans Priorité Santé aujourd'hui, la prise en charge des personnes dépendantes avec vos témoignages sur WhatsApp au 33 7 71 18 46 41. Parcours de patient douloureux, soulagé par un antalgique avant de tomber dans l'addiction. Buveur occasionnel, aujourd'hui conscient du problème, proche d'une personne en grande vulnérabilité, des existences cabossées et des appels au secours, éloigné des statistiques des saisies de drogue à la tonne. Témoignages et expertises de psychiatres à Paris, à Kinshasa, qui au quotidien prennent en charge, en pointant aussi l'insuffisance des moyens dédiés à l'accompagnement des personnes dépendantes. Alcool, cannabis, médicaments à base d'opiacés, auprès de qui les personnes dépendantes aux substances vont-elles chercher de l'aide pour essayer de décrocher, comme on dit? Quels sont les liens entre troubles psychiques et usage de drogue? Avec nous en studio, docteur Sarah Koskas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et addictologue à l'hôpital Paul Brousse à PHP à Paris, spécialisée en périnatalité des addictions. On retrouvera tout à l'heure en ligne de la République démocratique du Congo le docteur Abraham Mifundu Bilongo, il est neuropsychiatre et maître de stage du centre de neuropsychopathologie à l'université de Kinshasa. Et quelle influence la législation peut-elle avoir sur les comportements et consommations? Illustration à suivre au Portugal où nous retrouverons en ligne la correspondante de RFI à Lisbonne, Marilyn Darcy.
Priorité santé sur RFI.
Alors, psychiatre addictologue en France, addiction aux substances, dans votre pratique, docteur Sarah Koskas, comme au niveau des usages dans ce pays, la France, qu'est-ce que vous observez en consultation en termes de consommation, c'est-à-dire de produits les plus souvent en cause dans une addiction et donc qui motivent cette consultation?
Alors, les produits les plus fréquents sont quand même alcool, cannabis, hein, en consultation. Ce que l'on constate, alors peut-être parce qu'on est dans un département où on prend en charge des patients complexes, c'est que souvent les patients ont beaucoup de polyconsommation, c'est-à-dire qu'ils vont consommer plusieurs choses. Ils viennent pour un produit, mais quand on les interroge, il y a aussi ça, il y a aussi ça, il y a aussi un peu de cocaïne le week-end, il y a aussi des consommations qui peuvent être complètement banalisées parce qu'elles ne sont pas pointées comme de la substance problématique. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup de comorbidités psychiatriques associées. Souvent, les patients ont la solution à leurs problèmes psychiatriques, puisqu'ils ne veulent pas être vus comme un patient psychiatrique, de prendre des produits parce qu'ils sont soulagés sur le moment. Mais ça va aggraver leur pathologie.
Ça veut dire que plutôt que prendre un cachet, on va prendre, comme on dit, un joint ou
voilà, toutes les substances, l'alcool, le cannabis, toutes les substances psychoactives sont anxiolytiques sur le moment. Ça va avoir un effet bénéfique, voire même extrêmement rapide, extrêmement efficace. Par contre, ça ne fait pas que ça. C'est-à-dire, en effet, ça peut être anxiolytique, ça peut être aussi anxiogène. Certains peuvent faire des bad trips, faire des épisodes délirants. Mais surtout, le surlendemain, quand on consomme régulièrement, ça devient dépressogène. Et donc, on devient dépressif en pensant, du coup, traiter cette maladie qui peut-être est déjà présente auparavant. Donc en fait, parfois on a des patients qui ont des pathologies psychiatriques, enfin des symptômes psychiatriques devant nous, qui consomment des substances et on a du mal à faire la part des choses entre l'effet du produit et la pathologie psychiatrique vraiment sous-jacente. Donc on est parfois obligé d'arrêter la substance pour vraiment observer l'état psychologique du patient et faire un diagnostic. Puisque nous, dans notre classification internationale en psychiatrie, les diagnostics psychiatriques doivent se faire en dehors des substances.
Alors, on parle beaucoup de la crise des opioïdes en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Dans le contexte de la France, est-ce qu'il y a des éléments de comparaison ou pas vraiment? Je veux en venir finalement sur les évolutions des consommations.
Alors, il y a une évolution des consommations. Ce qu'on observe là depuis une dizaine d'années notamment, c'est une explosion des consommations des stimulants. Cocaïne, 3-MMC, des substances aussi, de nouveaux produits de synthèse qui sont achetés sur le dark web. Mais ce qu'on observe aussi, en parallèle, sur les opiacés, c'est que l'héroïne n'a plus du tout la cote et est vraiment vue, depuis le VIH quand même, comme une substance sale, dangereuse.
Parce qu'elle était inoculée par voie intraveineuse avec un risque de contamination.
Voilà, et puis il y avait cette notion, on a vraiment en tête qu'on peut faire une overdose à l'héroïne. Ce qu'on observe aussi, et d'ailleurs beaucoup, j'observe ça beaucoup en périnatalité avec les femmes enceintes, des patients qui ont des douleurs chroniques suite à un accident, des migraines, endométriose, maladie de Crohn, qui vont prendre des antidouleurs au long cours justifiées par la maladie chronique. Très vite, on va perdre le contrôle, notamment quand il y a des opiacés dans ces antidouleurs. Et donc, c'est pas du tout anodin de prescrire des antidouleurs puissants de type opiacé. Et c'est vrai que les signes de sevrage, les signes de dépendance peuvent apparaître en quelques semaines, vraiment très très rapidement. Alors ça ne veut pas dire qu'on est devenu complètement addict au produit, mais ça veut dire que surtout que quand on prescrit un opiacé, il faut vite présenter au patient comment l'arrêter.
Alors des questions aussi des auditeurs sur le fait peut-être que certaines personnes ont plus tendance à devenir addicts que d'autres. C'est Jonathan, il suit Priorité Santé au Burundi. Sur WhatsApp, il demande, est-ce que certaines personnes sont prédestinées à l'addiction, aux drogues ou à l'alcool? On a connu ça avec Émile Zola, les Rougon-Macquart, l'hérédité de l'alcoolisme. Est-ce que c'est une réalité?
Il y a une réalité. On observe des familles où il y a vraiment un héritage. C'est-à-dire qu'on voit l'oncle, le cousin. Donc après, se pose la question de la culture de l'alcool en France. Est-ce que si on a une famille où il y a toujours eu de l'alcool, ben, du coup, un enfant qui évolue dans cette famille va goûter plus tôt? Mais clairement, il y a une part génétique. Aujourd'hui, on ne connaît pas le gène, mais on a des grosses pistes de recherche dans ce cadre-là. Et probablement qu'il y a un élément génétique. Mais ce n'est pas uniquement ça. Il y a bien sûr beaucoup d'autres éléments, notamment des facteurs psychologiques. Il y a des traits de personnalité. Il y a des patients qui ont des traits de personnalité, chercheurs de sensations, impulsifs, qui vont être plus... Voilà, il y a une soirée, ils vont plus dire oui à une consommation que quelqu'un d'autre. Et puis, il y a les facteurs, les pathologies psychiatriques, dépression, anxiété, schizophrénie, tout ça. C'est des très, très gros pourvoyeurs de consommation de substances. Et puis, bien évidemment, qu'il y a l'environnement dans lequel on évolue qui peut favoriser. Si on est barman, sans stigmatiser une profession, mais si on est infirmière et on face à des médicaments en permanence, on est plus à risque d'en prendre facilement. Donc, il y a des vrais facteurs de vulnérabilité. Et puis aussi, un élément essentiel, c'est la consommation précoce. Plus on a goûté la première fois au produit tôt, c'est pas du tout anodin de finir un verre de champagne dans un mariage pour un jeune de 12-13 ans ou même avant. Ça ne veut pas dire qu'il est addict à ce moment-là, mais son cerveau aura goûté tôt. Et donc, quand il va regoûter, l'installation de la pathologie peut être plus rapide et plus facile, en fait. Donc, oui, il y a des facteurs de vulnérabilité. Tout le monde n'est pas égaux. Et c'est vrai qu'il y a des substances qui sont plus ou moins addictogènes et la maladie va s'installer beaucoup plus rapidement.
Quand je vous entendais parler de l'impulsivité, forcément, ça fait penser à l'adolescence. Est-ce que ça va être une période charnière ?
Alors oui, à l'adolescence, c'est une période où on goûte à tout. En général, notamment alcool, tabac, cannabis, on commence à l'adolescence pour les premières fois. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important que ça commence le plus tard possible par rapport à ce cerveau qui est immature. On dit qu'il y a des zones encore immatures jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc quand il y a des zones immatures, c'est des zones vulnérables pour l'installation de la maladie. Ce sont des périodes à risque. Et quand je vous disais tout à l'heure les traits de personnalité à type de, par exemple, de recherche de sensations, on sait que c'est des traits de personnalité qui évoluent avec l'âge. Plus on vieillit, moins on est chercheur de sensations, mais c'est tout à fait normal. Et donc, bien évidemment, que plus on est jeune, plus on va être tenté à goûter à certains produits.
Docteur Sarah Koskas, on va parler tout à l'heure de la prise en charge, y compris en répondant aux questions des auditeurs. Mais si vous le voulez bien, tout de suite, cette question de la lutte contre l'addiction du côté de l'approche pénale. Avec une question, quelle influence la législation peut-elle avoir sur les comportements et les consommations? Une illustration au Portugal. Et en ligne, on retrouve la correspondante de RFI à Lisbonne, Marilyn Darcy. Bonjour.
Bonjour.
Je précise que cet entretien est enregistré. Alors c'est vrai, Marilyn, qu'en Europe, le Portugal est souvent cité à titre d'exemple parce que c'est l'un des rares pays à avoir choisi, il y a plus de 20 ans, une dépénalisation générale, hein, oui, de toutes les drogues. Et Marilyn, pourquoi les autorités portugaises ont-elles justement adopté cette réforme qui est donc appliquée depuis 2001?
Alors, dans les années 80 et 90, la consommation d'héroïne a explosé au Portugal, en décalage par rapport au reste du monde en raison du régime dictatorial qui a prévalu jusqu'en 1974. Alors, à partir de là, on assiste à l'ouverture de la société, alors que c'est aussi le retour des soldats, des campagnes d'outre-mer et la décolonisation. La mortalité par overdose et les infections par le virus du sida sont très inquiétantes. Le phénomène est transversal à la société et touche toutes les familles. Les autorités en font donc une question de santé publique. La loi adoptée en 2000 décriminalise la possession de drogue jusqu'à une certaine quantité fixée par un tableau pour chaque drogue. La personne interpellée est alors conduite à une commission de dissuasion de la consommation où elle sera invitée à suivre un traitement ou un accompagnement psychologique. Au-delà des limites des quantités autorisées, la personne est alors considérée comme trafiquant. Attention toutefois, en aucun cas la consommation de drogue n'est autorisée au Portugal, mais le consommateur est avant tout un malade et non pas un délinquant.
Alors cette réforme, il y a donc maintenant plus de 20 ans, est-ce que pour autant le regard de la société portugaise sur les usagers de drogue, est-ce que ce regard a changé?
Alors oui, ce regard a changé, les toxicodépendants sont considérés comme des malades, des gens à problème, il y avait un réel besoin d'aide dans les familles concernées. Le problème de la drogue a été confié à un organisme unique qui s'appelle aujourd'hui le SICA, et qui dépend directement du ministère de la Santé. La stratégie mise en place est ainsi plus souple et plus rassurante. Les toxicodépendants et leurs familles savent à qui s'adresser. Mais comme il est tributaire des budgets d'État et des priorités politiques, eh bien cet organisme est régulièrement menacé. Or, comme le fait remarquer le directeur du SICAD, Jean Goulan, une grande partie de la stratégie est basée sur la pédagogie et l'établissement de la confiance.
Et maintenant, Marilyn Darcy, en termes de prise en charge, qu'est-ce qui est proposé aux consommateurs de substances au Portugal?
Alors tout d'abord, une précision, c'est l'an dernier seulement, sous l'impulsion des socialistes au gouvernement, que la loi qui décriminalise les drogues de synthèse a été adoptée. L'Observatoire européen de la drogue et de la toxicodépendance, d'ailleurs basé à Lisbonne, dénombrait pas moins de 880 drogues de synthèse en circulation en 2021. La nouvelle loi élimine ainsi l'inégalité des consommateurs face aux différentes substances. Elle confie aussi au tribunal la suite à donner en termes de procédure selon les situations et notamment en cas de soupçon de trafic. C'est une tentative de mieux contrôler la circulation des drogues de synthèse. Quant aux réponses apportées au Portugal, eh bien, elles passent par les 18 commissions de dissuasion mises en place. Le tout est complété par un dispositif de prise en charge hospitalière relayé aussi par le privé et les associations pour les centres d'accueil. On retrouve également dans cette offre des dispositifs de consommation surveillés pour limiter l'exposition au risque. Il en existe deux fixes et une en mobilité. Deux supplémentaires sont actuellement à l'étude.
Alors, est-ce qu'avec ces deux décennies de recul, est-ce que l'on sait si cette dépénalisation de la toxicomanie a pu avoir un effet positif en termes de santé publique?
Le dispositif fonctionne, mais il marque le pas en raison notamment de l'augmentation de la consommation de cocaïne et du crack, surtout comme dans le reste de l'Europe. Selon une étude du SICAD, portant sur 2022, 39 000 consommateurs de crack ont été identifiés sur un total de 67 000 consommateurs de cocaïne. C'est une augmentation préoccupante, probablement liée aux difficultés à trouver de l'héroïne pendant la pandémie Covid. L'héroïne qui, par ailleurs, est responsable directement ou en association des 74 morts par overdose répertoriées en 2021. Quant au cannabis, il reste en tête des drogues consommées au Portugal. 12% de la population des 15-64 ans en a consommé en un an. Il faut enfin souligner que la plus belle réussite concerne la baisse des maladies transmissibles liées à la drogue par voie intraveineuse, et notamment dans le cas du VIH-SIDA, une baisse importante de 1287 nouveaux cas dans les années 2000 au moment de la mise en place du dispositif à 16 nouveaux cas en 2019, 20 ans après pratiquement, soit 80% de baisse.
Un grand merci à vous Marilyn Darcy et très très bonne journée à Lisbonne. Est-ce que c'est quelque chose qui pose question quand on est comme vous, un spécialiste en addictologie, docteur Sarah Costa? Kouska, ce cadre réglementaire ou pénal, l'influence sur le quotidien de vos patients, vous en parlez avec justement les patients en consultation ?
Alors oui, on en parle, ça peut être un élément motivationnel, mais c'est rarement un élément motivationnel. En fait, les patients ne consultent pas forcément. Enfin, on a quelques patients qui sont sur nos injonctions de soins et qui viennent parce que la justice leur a dit de venir, mais c'est rarement un élément motivationnel qui va les faire changer. Souvent, ce qui va les faire changer, c'est plutôt l'entourage. C'est le retentissement sur leur énergie, sur leur vie sociale. Et après, le retentissement sur leur santé, vraiment, parce qu'ils sont très peu soucieux de leur santé. Mais le côté pénal, conséquences juridiques, est très peu motivationnel pour les patients.
Et comment la stigmatisation des personnes usagères de drogue s'entre en ligne de compte quand vous devez les prendre en charge, docteur Sarakoska ? Est-ce que la première chose, c'est déjà tout simplement la difficulté de reconnaître le problème et d'aller consulter dans un service où il y a marqué addictologie?
Alors la stigmatisation, même nous, en tant qu'addictologue, on la vit. Au sein de l'hôpital, on n'est pas forcément, par certains professionnels, collègues, considérés comme des médecins. C'est-à-dire que c'est...
Pourquoi? Parce que vous soignez, entre guillemets, des drogués qui l'ont bien cherché? Parce que gros guillemets, devant, derrière, partout.
Exactement. Enfin, c'est pas ça. C'est une jeune discipline. Elle n'a pas l'aura de la cardiologie, de la cancérologie. Et parfois, elle est jugée comme une fausse maladie ou pas une vraie maladie. Et du coup, si les professionnels de santé peuvent certains penser ça, la société pense ça, du coup les patients pensent ça, et pour eux du coup c'est j'ai pas besoin, je suis pas malade à ce point. Ils ont cette image du malade éventuellement clochardisé ou du malade vraiment en overdose, et eux ils ressemblent pas à ça, ils ont pas cette image. On va les croiser dans la rue, on va pas faire attention physiquement qu'ils ont un retentissement, pourtant la drogue fait partie de leur vie, de leur quotidien, elle envahit leur esprit. Donc il y a une vraie difficulté, et il faut vraiment travailler sur les représentations, comme de la psychiatrie, l'addictologie souffre de cette représentation extrêmement négative. Personne n'a envie d'avoir une maladie psychiatrique, personne n'a envie d'avoir une maladie addictologique, comme toutes les autres pathologies. Mais du coup, en travaillant sur ces représentations et sur cet accès aux soins, pour nous, c'est vrai que c'est un gros, gros frein. C'est-à-dire que souvent, les patients ont une phase, on dit, un peu de contemplation, où, j'ai pas besoin, j'arrête quand je veux, moi, je suis pas vraiment malade, je fais que m'amuser. Donc, beaucoup de freins à l'accès aux soins. Et aussi, bien évidemment, après, quand on appelle, il y a un délai de prise en charge, malheureusement, mais ça, c'est valable pour beaucoup de disciplines en France, qui rendent un peu difficile aussi cette prise en charge.
On va poursuivre notre échange. On donnera la parole aux auditeurs. On va retrouver aussi un de vos confrères en RDC juste après ce titre. Dibidio Sound Machine, Pull the Rope sur RFI. Life, how we go. Priorité Santé sur RFI, la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, toujours en compagnie du docteur Sarah Koskas, psychiatre addictologue à l'hôpital Paul Brousse à Paris. Premier témoignage, on a beaucoup d'auditeurs de la RDC aujourd'hui, hein, de la République démocratique du Congo, et on commence avec Augustin, qu'on retrouve en ligne de Kolwezi. Augustin, bonjour.
Bonjour madame, bonjour aux invités.
Alors Augustin, vous avez 27 ans, est-ce que vous faites le lien, parce que vous êtes dépendant à l'alcool, entre cette dépendance et un événement particulier de votre vie?
Ah oui, d'accord. À une certaine période, je prenais de l'alcool d'une manière occasionnelle. Deux ou trois ans après, j'ai commencé à prendre d'une manière abusive. Et cela m'a provoqué un problème d'hypertension.
Quand vous dites, excusez-moi Augustin, je vous coupe, quand vous dites consommation abusive, ça veut dire que vous buvez de l'alcool dès le matin?
Oui, dès le matin, dès que je me réveille, j'étais toujours obligé de boire. Et donc, une fois que je ne prends pas, je me sens malade, je me sens stressé, inquiet, voilà.
Est-ce que vous avez déjà fait des pauses, des arrêts d'alcool pendant plusieurs jours?
Oui, une certaine fois, il m'était arrivé, quand je me sentais mal, je m'étais rendu à une clinique où j'avais consulté un neuropsychiatre.
Oui.
Oui, qui m'avait au moins soumis à un certain traitement médical.
Oui.
Le docteur m'avait conseillé de ne plus prendre même une petite quantité pendant une période de 3 mois. Et quand j'avais respecté cela, je m'étais rendu compte que je me sentais mieux.
Vous avez tenu combien de jours, justement, Augustin? Le conseil, c'était 3 mois. Est-ce que vous avez réussi à rester abstinent pendant toute la période?
Oui, pendant toute la période de 3 mois, vraiment, je m'étais en sortie, donc, disons, 2 mois et demi. Au bout de 2 mois, pour atteindre le troisième mois là, quand j'avais rechuté encore.
Vous savez pourquoi vous avez rechuté?
Oui, la raison en est que il y avait un événement dans la famille, il y avait un veilleur mortuaire où les gens prenaient au moins de l'alcool. Et quand j'étais là, les gens m'avaient forcé aussi de prendre même une petite quantité.
Il vous avait dit, vas-y Augustin, prends un verre, c'est pas grave, tu verras, ce sera bien, c'est ça?
Pardon?
Il vous avait invité à prendre un verre en disant que c'était pas si grave.
Oui, c'est ce qu'il m'avait dit, pendant que j'étais encore sous pire.
Aujourd'hui, vous avez envie d'arrêter l'alcool, Augustin?
Oui, j'ai envie d'arrêter vraiment.
Pourquoi vous avez envie d'arrêter?
Parce que j'ai des malaises par-ci, par-là.
Oui. Au niveau du travail, ça a abîmé les relations au travail. Dans la famille, ça se passe comment?
Au travail, non, parce que là, au travail, je respecte au moins. Je ne prends pas pendant que je suis au travail, mais dans la famille, il y a un grand frère qui m'avait conseillé au moins d'arrêter. Et là, je m'étais abstenu pendant 3 mois. Et plutôt 3 jours, voulais-je dire. Et avec les 3 jours-là, je m'étais un peu forcé, mais je me sentais toujours stressé. Et j'avais toujours envie de prendre une quantité.
Augustin, moi j'ai une question. Vous voulez réduire votre consommation ou vous voulez arrêter? Qu'est-ce que vous souhaitez?
Eh bien, c'est-à-dire, j'ai des préoccupations. À savoir, que dois-je faire pour briser la chaîne des consommations? Et la deuxième préoccupation, que faire pour m'en abstenir du tout?
Est-ce que vous voulez arrêter complètement ou pas? Vous, votre
oui,
souhait personnel, vous voulez arrêter complètement?
Oui, donc, oui, je voulais arrêter complètement, bien sûr.
Ouais. Docteur Sarah Koskas, on entend Augustin qui a besoin de conseils. On va dire simplement qu'il en a marre de cette addiction. Ça lui pèse, c'est dès le matin. Il a quand même réussi sur 3 mois. C'est déjà quelque chose d'encourageant, j'imagine?
Oui, Augustin est jeune, il peut réussir à arrêter. L'addiction, faut comprendre que la maladie addictive, une fois qu'elle est installée, c'est-à-dire qu'il y a une incapacité à contrôler sa consommation, c'est très compliqué de dire à son cerveau, tu bois un peu et puis tu arrêtes, et puis tu boiras 3 jours et puis tu arrêtes. C'est très difficile, il ne vous laissera jamais contrôler, en fait, une fois que la maladie addictive est installée, puisque la normalité, c'est devenu de boire. Mmh. C'est plus la normalité de ne pas boire. Donc, c'est beaucoup plus simple d'être à zéro. Mmh. Et plus le temps passe, plus c'est facile. 3 mois, c'est vraiment la période déclic un peu où on dit que les rechutes sont maximum dans les 3 mois. Hein, c'est vraiment la période. C'est pour ça que souvent, les cures, les post-cures durent un peu plus de 3 mois. C'est une période assez charnière. Et on dit souvent qu'il faut rester 1 an au minimum sans consommer pour remettre en place une vie sociale, une vie professionnelle, une vie psychologique saine pour retrouver un équilibre. Mmh. Et d'ailleurs, par rapport au problème de tension artérielle, il arrive souvent qu'on ait des patients qui ont des problèmes d'hypertension. Et une fois qu'ils sont hospitalisés pour sevrage, alors le moment du sevrage peut faire monter la tension, mais passer une semaine, 15 jours, finalement, on enlève le traitement antihypertenseur qui était vraiment lié à l'alcool.
Augustin, est-ce que vous allez régulièrement au café ou est-ce que vous buvez plutôt à la maison? Est-ce que ça veut dire que si vous décidez d'arrêter, vous devrez vous couper de certaines relations sociales?
Oui, effectivement. Les occasions sont multiples. Mmh. Il arrive deux fois. Mmh. Je me retrouve quelque part où on vend. Je fais m'arrêter. Mmh. Je prends une quantité. Mmh. J'arrive à la maison, j'achète, je prends une autre quantité. Mmh. Et dans ce sens-là. Oui. Mmh.
Et vous êtes prêt justement à changer ses habitudes, à ne plus faire ses arrêts, ou peut-être certains amis qui boivent beaucoup, les voir un petit peu moins un petit temps pour vous réhabituer à tout ça? Est-ce que c'est possible, ça?
Oui, d'après moi, c'est possible d'une manière physiologique, si j'étais le dire, mais au moins le cerveau m'envoie encore à prendre cela. Moi-même, j'ai cette envie-là, j'ai ce souci-là, mais le cerveau me dit toujours, prends au moins quelque chose pour peut-être te relaxer, quelque chose comme ça.
Et si vous n'avez pas accès à un médecin, est-ce que vous avez une sorte de conseiller spirituel, quelqu'un de proche dans la communauté, de confiance, à qui vous pouvez confier justement quand vous êtes un petit peu en fragilité, en faiblesse, aller lui en parler, chercher de l'aide? Est-ce qu'il y a cet accompagnement qui est disponible chez vous?
Cet accompagnement n'est pas disponible. Hein?
Non, il n'y a pas, même dans la communauté religieuse ou un chef de village, un grand frère?
Oui. Dans les comités religieux, plutôt, j'avais consulté les anciens de mon église. Ils m'avaient conseillé, ils m'avaient donné des articles bibliques. Ils m'avaient dit, non, il faut arrêter. Je m'étais efforcé, toujours ça n'allait pas. Alors je me demandais qu'est-ce qui m'arrive, juste.
On a bien entendu toute cette difficulté, tout ce parcours, Augustin, bon courage à vous. C'est maintenant à Kinshasa qu'on va retrouver Hermos. Hermos, bonjour.
Et bonjour, madame.
Alors, vous avez 31 ans, Hermos, votre problème c'est le tramadol. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances vous avez pris pour la première fois ce médicament qui est donc prescrit par les médecins normalement pour lutter contre la douleur?
Oui, c'est vers l'année 2019, au début de l'année, j'avais un problème de l'appendicite.
Oui.
Et vu que j'avais des douleurs, une fois j'ai parlé avec le médecin, et il m'a prescrit le tramadol pour le soulagement.
Pour cette douleur. Au bout de combien de temps est-ce que vous avez senti la dépendance s'installer?
C'est-à-dire après l'intervention, après l'intervention chirurgicale, et puis du coup, j'ai remarqué cela.
Donc, c'est venu très vite, ça veut dire? Vous êtes venu accro tout de suite?
Après une semaine, parce que on m'avait prescrit les tramadol juste après une semaine pour soulager un peu de douleur.
Ça veut dire, Hermos, excusez-moi de vous interrompre, ça veut dire que là, depuis 5 ans, si je fais le calcul, vous prenez pratiquement tous les jours du tramadol?
Oui, exactement, régulièrement.
Quelle quantité?
5 comprimés la journée, c'est-à-dire le matin, j'ai pris 3 comprimés et le soir, 10 comprimés. Donc régulièrement, depuis 2019 jusqu'à maintenant.
Vous avez déjà fait des malaises?
Oui, des fois, ça m'arrive.
Vous avez essayé d'arrêter ou pas de vous-même?
Des fois, oui, vers l'année 2020, j'avais essayé, parce qu'on me disait toujours que les tramadol, et c'est très dangereux.
Oui.
Voilà. Donc, j'ai fait des efforts pour arrêter, malheureusement. C'est vraiment difficile.
Vous pouvez poser vos questions au docteur Sarah Koskas qui vous écoute, Hermos. Allez-y.
Oui, ma question est celle-ci. J'aimerais savoir le risque que je cours en prenant des tramadol. Et surtout, ça fait déjà, je dirais, pratiquement 5 ans que je le prends régulièrement. Alors, j'aimerais savoir du risque. Voilà.
Alors, bonjour. Le risque, il est l'installation de la maladie par rapport à l'addiction, le fait que vous en soyez dépendant. On sait que la consommation au long cours peut provoquer une dépression de manière chronique, une anxiété chronique, des troubles du sommeil. Et ça va avoir un peu comme une tache d'huile dans votre vie, une répercussion sur votre entourage, sur votre vie sociale, sur votre travail. Donc c'est beaucoup une répercussion psychologique. Après, il faut savoir que c'est un opiacé. Il y a quand même un risque potentiellement mortel, de risque d'overdose, d'en prendre une fois un peu trop, et faire un malaise, une perte de connaissance. Voilà, donc c'est ce type de risque principalement que vous avez. Une fois que l'installation de la maladie est là, comme on peut l'entendre, c'est vrai que c'est une substance très addictogène et vous ne pouvez pas en prendre de temps en temps maintenant. Donc soit il faut faire une réduction lente, soit un arrêt brutal avec une période de quelques jours où vous êtes très très mal avec des signes de sevrage qui sont extrêmement connus, mais il n'y a pas de risque vital. Il faut bien sûr être un peu médicalisé à ce moment-là. Mais c'est vrai que les opiacés pour vous restent une substance beaucoup trop addictogène pour continuer à en prendre.
Qu'est-ce que vous en pensez, Hermos ? Est-ce que vous avez, vous, personnellement, conscience du danger ou pas ?
Oui, madame, je suis... je le sais très bien, parce que des fois, je le sais très bien. Mais le problème est que c'est vraiment difficile pour moi d'arrêter. Parce que je fais toujours des efforts, mais sans succès. Si ça dépendait que de moi, je pouvais arrêter tout de suite. Mais depuis un certain moment, c'est vraiment difficile. Je dirais même impossible.
Est-ce que vous avez la possibilité d'en parler à un médecin ou pas ? Est-ce qu'il y a un médecin de confiance à qui vous pouvez en parler ?
Bon.
Pas vraiment ?
Non, je ne pense pas, pas vraiment.
Vous êtes sur la place de Kinshasa, n'est-ce pas ?
Oui, je suis à Kinshasa. Oui.
Et il y a des centres hospitaliers qui ont des centres de psychiatrie qui peuvent éventuellement vous écouter. Est-ce que vous savez que vous pouvez vous rendre dans un hôpital en psychiatrie et aller parler de votre problème ? Est-ce que vous le savez, Hermos ?
Je ne sais pas trop. Hein. Peut-être ça va demander beaucoup d'argent, peut-être.
Peut-être, mais déjà poser la question. Est-ce que d'une certaine manière, Hermos, vous vous sentez coupable d'être tombé dans la drogue, d'être tombé dans le tramadol ?
Bah oui.
C'est ça ? Est-ce que c'est ça aussi qui vous bloque pour aller voir un médecin, de dire « j'ai honte de ce que j'ai fait » ? Non, parce que ce sont des médecins qui s'occupent des personnes. Donc, c'est une maladie. Donc, on n'a pas honte d'avoir une maladie. Évidemment, au début, en plus, vous nous avez expliqué, c'est un médecin qui vous a prescrit ce médicament. Vous aviez une appendicite, exactement. Vous aviez mal, vous avez voulu vous soulager. Il n'y a pas de problème derrière ça. Et ça, un médecin, il peut l'entendre. C'est pour ça que c'est évident, ça peut coûter cher d'aller à l'hôpital quand on y va de nombreuses fois. Mais au moins une fois, en parler à un médecin pour commencer, peut-être que ça pourrait être un début de solution. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que l'idée est bonne.
L'idée est bonne ? Bon.
Oui,
en tout cas, on vous encourage à le faire. Il y a une question, peut-être, restez encore un peu à l'écoute, Hermos, parce que je sais que ça peut paraître un peu peut-être simpliste, ce que je vais dire. Mais il y a une interrogation d'un auditeur de Cotonou, Émile, qui demande si l'activité physique, tourne vers la médecin qui est avec nous en studio, docteur Sarah Koskas, si l'activité physique peut aider à lutter contre certaines addictions à des substances psychoactives. Est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé de se bouger, de se changer, de faire du sport, d'y aller, quoi ?
Comme le disait Hermos, il y a des moments où il y a des envies. Les envies, on appelle ça les cravings, c'est des envies irrésistibles de consommer. Ça fait partie de la maladie, c'est rien de grave, c'est des moments insupportables. Et c'est vrai que quand on arrête les substances, au début, ils sont très présents, plusieurs fois par jour, ils sont puissants. Et puis au bout du temps, à un certain temps, ils s'atténuent. Il faut savoir que ces cravings, ils durent principalement 30 minutes. Et c'est vrai que pendant ces 30 minutes, c'est bien d'essayer de trouver des stratégies, qu'on appelle ça un peu, nous, un plan d'urgence. Si j'ai un craving, qu'est-ce que je fais ? Et ça va être propre à chacun. Pour certains, ça va être faire du sport. Pour d'autres, ça va être lire, écouter de la musique. Ça va être travailler. Ça va être appeler quelqu'un. Ça va être voilà. Donc, il faut gérer ces 30 minutes. Et le sport peut être très bénéfique. Et puis, on sait que le sport, en plus dépasser plus de 30 minutes, va créer des endorphines et créer un sentiment de plaisir qui peut ressembler aux effets d'une substance. Alors, attention, bien sûr, à l'addiction au sport. Mais bien évidemment que le sport peut être une des solutions.
Donc, deux conseils hein, après cet échange avec vous, Hermos. Allez consulter un médecin et, si possible, essayer de vous mettre à l'activité physique. On va rester dans la capitale de la RDC.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Docteur Abraham Mifundu Bilongo, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes neuropsychiatre, maître des stages au centre neuropsychopathologique de l'université de Kinshasa. Docteur Bilongo, qu'est-ce que vous observez sur la place de Kinshasa comme consommation de substances?
Oui, actuellement, comme dans toutes les villes et comme dans tout le pays, ce qui est particulier actuellement à Kinshasa, c'est que les consommations sont en train de changer petit à petit. Par rapport aux substances, avant c'était plus le tabac, l'alcool, le cannabis, l'héroïne, la cocaïne et le valium, le diazépam, qui étaient souvent consommés en association. Mais actuellement, on est en train d'assister à un regain de la consommation de boissons alcoolisées et aussi de médicaments, notamment le tramadol et la bombée qui contient l'héroïne. Mais aussi les substances qui n'ont pas un statut juridique, comme le fait de tabac et d'autres racines qu'on peut trouver dans la nature ici, sont souvent associées à certaines substances psychoactives comme le cannabis.
Alors, excusez-moi, docteur, vous avez cité le Bombay pour le grand public, ce n'est pas forcément connu. C'est une substance très, très bizarre, le Bombay. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Ben, en fait, c'est quelque chose qui a été assez à la mode, surtout au courant de l'année passée. Et il s'agit de poudre qu'on prend dans le tuyau d'échappement de véhicules et auquel on associe plusieurs substances, notamment l'héroïne. Les dernières recherches qui ont été faites en Belgique, les échantillons qui ont été envoyés en Belgique, ont montré que c'était plein de opiacés, notamment l'héroïne.
Donc, vous disiez aussi qu'il y a des substances qui échappent à la loi. Il y a aussi la noix de cola, on peut le citer. On a un témoignage de Minei en RDC, justement. Elle dit que beaucoup de femmes sont addictes aussi au kaolin. Ça se présente sous la forme de bâtonnets. Ça provoque de l'anémie. Ça peut être très, très grave quand on est enceinte, notamment. Elle-même, Minei, est en situation de dépendance. Elle explique avoir vraiment essayé d'arrêter. C'est extrêmement compliqué. Est-ce que vous pouvez lui donner des conseils, justement, pour essayer d'arrêter ce kaolin?
Ben, en fait, il faudrait que surtout les femmes enceintes doivent savoir que c'est quand ils les consomment, eh bien, il y a le fer qui s'attache à cela et ainsi, ils n'ont pas suffisamment de fer dans leur sang. Or, ça participe beaucoup à la formation du sang, dont surtout a besoin des enfants. Et pour elle-même, ça peut poser des problèmes. Et pour l'enfant qui se
pour l'enfant à
naître.
Risque notamment d'une atteinte très très grave qui s'appelle le spina bifida pour le bébé à naître. On a en ligne du Sénégal, docteur, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais on aimerait donner la parole à cette auditrice. C'est Nicole, c'est une maman qui a besoin de conseils. Et on va lui donner la parole tout de suite. Bonjour Nicole.
Bonjour.
Vous appelez au sujet de votre fils qui est depuis longtemps consommateur de nombreuses drogues, enfin jusqu'à récemment. Il a consommé quelle drogue, votre fils?
Il a consommé toutes les formes de drogues, le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, le valium, en tout cas. Il était même suivi par le docteur Mifundu qui vient de passer en 2004 à Kinshasa.
Donc vous avez essayé de consulter plein de médecins, vous avez presque tout essayé. Est-ce que cette entrée dans l'alcool, vous l'associez à quelque chose dans la vie de votre fils, à des événements particuliers?
Bon, il a commencé après la guerre de 97 à Brazzaville. Comme tout, il y avait des écoles qui avaient fermé, parmi lesquelles son école. On lui a changé d'école et dans la nouvelle école, là, il a croisé des amis qui l'ont entraîné sur le chemin de la drogue et de l'alcool.
Et il a eu un parcours en santé mentale. Il a pris aussi des traitements par rapport à certains problèmes ou certains troubles psychiques.
Oui, il a pris des traitements parce qu'au début, on lui a prescrit des neuroleptiques. Et il y a eu plusieurs diagnostics. Les premiers médecins ont dit que c'était la schizophrénie dysthymique. Et en 2012, ça c'était en 2003, en 2012, je l'ai emmené à Cotonou. Là-bas, le médecin a dit que c'était plutôt une paranoïa. Et en 2023, les mêmes médecins qui ont dit que c'était la schizophrénie à Brazzaville ont dit que c'était maintenant des troubles bipolaires. Et là, en 2023, en août 2023, je l'ai amené à Dakar pour une cure de désintoxication. Malheureusement pour moi, trois jours après notre arrivée, il a fait un AVC. Et les psychiatres de Dakar disent que c'est plutôt des troubles, des troubles délirants persistants dus à la consommation des substances psychotropes.
Donc aujourd'hui, ça veut dire que suite à cet AVC, votre fils, il est handicapé?
Il est handicapé, justement.
Et vous avez des questions par rapport à ce parcours, on l'a entendu, extrêmement chaotique, extrêmement douloureux pour lui, mais aussi pour vous. Allez-y, Nicole, pour vos questions.
Oui, je voulais savoir que là, il y a plusieurs diagnostics. Je ne sais pas quel diagnostic retenir. Et au début, les médecins ont dit que c'est parce qu'il avait pris la drogue très jeune, à 11 ans, le cerveau était en pleine croissance. Que c'est que la drogue qui a déformé le cerveau. Et est-ce que la drogue et l'alcool peuvent également retarder la récupération de l'hémiplégie?
Ça fait combien de temps qu'il est en hémiplégie, votre fils?
Ça fait 11 mois aujourd'hui.
11 mois aujourd'hui.
Et lui-même, il accuse les neuroleptiques.
Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'a plus trop le choix, il ne consomme plus de drogue aujourd'hui?
Pour le moment, il ne consomme pas, comme il est handicapé, il est à la maison. Mais moi, la question qui me préoccupe, qui me stresse le plus, c'est de savoir comment faire pour éviter la rechute. Parce qu'au Bénin, on avait fait 3 ans, de 2012 en 2015, je croyais qu'après 3 ans, qu'il allait arrêter. Mais après, il a rechuté quand on est reparti au pays.
Docteur Bilongo, on entend vraiment un parcours extrêmement éprouvant pour Nicole et pour son fils. Justement, comment est-ce que vous réagissez à ce type de parcours avec des avis très contradictoires des médecins, avec des questionnements, avec les doutes d'une mère?
En fait, il faut reconnaître que souvent, il y a un terrain prédisposant. Et il y a des facteurs, en fait, qui sont liés à la personne elle-même. Il y a certains facteurs qui peuvent être liés au contexte, comme elle a dit, l'école. Et aussi, il y a des facteurs qui sont liés à la substance qu'elle prend. Aujourd'hui, il est bien clair que la consommation du cannabis est très associée à la schizophrénie. Et c'est une relation d'ailleurs bidirectionnelle. C'est comme la schizophrénie, quelqu'un qui a déjà des prédispositions à la schizophrénie, eh bien, peut, à l'occasion de la consommation de cannabis, la schizophrénie devient à la souffrance. Et c'est comme les schizophrènes ont une grande appétence au cannabis.
Une vulnérabilité particulière. Merci pour votre appel, Nicole. Un grand merci à vous. Bonne journée à Dakar. Le temps passe très vite. Désolé, on est obligé d'interrompre ce lien, docteur Abraham Mifundu Bilongo. J'ai une dernière question. Il nous reste une minute environ. J'ai dit tout à l'heure en vous présentant spécialité sur les addictions en périnatalité. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? J'imagine que c'est encore plus tabou que pour les autres personnes.
Oui, c'est très tabou. On a dit les addictions, mais c'est très tabou les femmes qui ont des problèmes d'addiction. Parce que quand on est une femme, c'est très difficile d'accéder aux soins. Et c'est encore plus difficile quand on est une femme enceinte. Comme on le disait tout à l'heure, la maladie addictive, c'est une maladie chronique. Lorsqu'on est addict et qu'on est enceinte, on est toujours addict. Ça ne s'arrête pas à la porte de la maternité. C'est comme quand on est diabétique et qu'on est enceinte, on est toujours diabétique. Et donc, il y a une grande majorité des femmes enceintes qui arrivent à arrêter les substances. Il y a vraiment des choses incroyables qui se passent au moment de la grossesse, parce que c'est un facteur motivationnel, un booster motivationnel extrêmement fort. Parce que souvent, on le disait tout à l'heure, c'est ce qui peut motiver les gens. C'est souvent les événements qui arrivent qui peuvent précipiter les choses. Et donc la grossesse est un vrai facteur de motivationnel. Donc il y a une grande majorité des femmes qui arrêtent. 100% des femmes fumeuses, par exemple, disent « quand je serai enceinte, j'arrêterai ». Et pourtant, il y a encore 10-15% qui fument au dernier trimestre. Ce qu'on peut retenir d'essentiel pendant la grossesse, c'est que l'alcool reste la substance la plus dangereuse pour le fœtus. Et ça ne concerne pas que les femmes addictes, ça concerne toutes les femmes. Puisqu'aujourd'hui, on ne connaît pas la dose qui n'est pas toxique pendant la grossesse. Donc même si on boit un verre de temps en temps, eh ben, ça peut avoir un effet extrêmement dangereux, avec un effet tératogène, donc malformation, retard mental, qui peuvent être très néfastes. Donc c'est vrai que la grossesse, c'est une bulle où il ne faut absolument ne pas consommer. Après, il faut relativiser les substances, comme je vous dis, tabac, cannabis, bien sûr qu'il ne faut pas consommer, mais ça n'a rien à voir avec l'effet de l'alcool, qui est extrêmement dangereux pour la grossesse.
Ça veut dire que c'est au niveau de la maternité, les femmes vous sont référées ou ce sont des femmes qui viennent directement frapper à la porte de l'hôpital au service addicto?
Alors, il y a toutes mes patientes addictes qui ont des projets de grossesse, qui ont des envies d'être maman, à qui on propose une prise en charge, on prépare avant, en anténatale, ça c'est dans le monde de Mickey, quand on peut vraiment prévoir les choses. Mais non, j'ai une consultation à l'intérieur de la maternité de Bicêtre, où là, on fait du repérage au moment de l'inscription à la maternité. Parfois, c'est par la PMI, une orientation, dire voilà, on a repéré des consommations, on a interrogé. Ce qui est important aussi aujourd'hui, ce qu'on travaille beaucoup, c'est l'interrogation et le repérage systématique. Pas parce qu'elle a la tête d'une consommatrice, mais toutes les femmes, c'est ce qu'on se rend compte que c'est vraiment n'importe quel milieu social qui peut avoir des consommations problématiques, que ce soit de la cocaïne, de l'alcool. Il ne faut vraiment pas, encore une fois, stigmatiser et être dans le systématique. Et donc, du coup, elles nous sont orientées et on les accompagne pendant la grossesse et voir. On oriente après, soit je continue à les suivre après l'accouchement, soit je les oriente vers un service d'addictologie.
On a bien compris, c'est une maladie et ce n'est pas une honte. Docteur Sarah Kouskas, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé.
Merci à vous.
Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. Louise Kaledek, Talim Pou, Damien Roucou, Didier Bleu et Oscar Jouxtel à la réalisation aujourd'hui. Demain, un reportage long format dans Priorité Santé signé Charlie Dupio. Améliorer la santé maternelle et infantile au Cameroun. Illustration dans deux maternités de la zone de Yaoundé. On se donne donc à demain pour retrouver ce reportage à 9h10 temps universel. D'ici là, restez à l'écoute et portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.